Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris.
Nous sommes toujours sur le salon Équipe B Metal Expo, jour 3, 23 septembre. On est en compagnie de Jonathan Barrault. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Vous êtes délégué général adjoint responsable technique de l'Union des métalliers.
Exactement.
Alors on a déjà présenté l'Union des métalliers hier avec vos confrères. On a parlé beaucoup du recrutement, difficulté de recrutement. Avec vous, on va faire un petit tour du côté de la RE 2020, la rénovation énergétique qui arrive à grands pas, 1er janvier 2022, de la REP. Et puis, on parlera aussi de l'outil bilan carbone. On commence, si vous le voulez bien, avec cette nouvelle réglementation attention énergétique. On parlait de réglementation thermique, c'était la 2012, RT 2012.
Tout à fait.
Réglementation énergétique 2020, qu'est-ce que ça change ?
Alors, c'est une réglementation environnementale, précisément. Il faut savoir déjà, pour un petit historique, que, effectivement, comme vous l'avez bien signifié, on a des réglementations thermiques qui existent depuis les années 70 environ. Il y a tous les 5 à 7 ans des mises à jour, on va dire, de ces réglementations thermiques jusqu'à la RT 2012, la fameuse. Et aujourd'hui, aujourd'hui en 2020, aurait dû être pris en compte le volet environnemental. Et du coup, ce qui change par rapport aux autres réglementations thermiques initiales, c'est qu'on va vraiment s'intéresser sur la partie, le volet énergie et le volet carbone spécifiquement.
Et voilà ce qui change. Le carbone, on ne le prenait pas en compte jusqu'ici. Non. Finalement,
tout
et aujourd'hui,
fait.
On se dit attention, on sait que l'urgence est là, l'urgence climatique.
Exactement.
On en parle un petit peu tous les jours, on a vu quand même pas mal de catastrophes. Il est temps de réduire les fameux gaz à effet de serre et donc à prendre en compte cette empreinte carbone.
Tout à fait. Et pour ce faire, il y a plusieurs outils qui existent. Alors déjà, il y a une étude qui s'appelle l'étude E+C- qui était réalisée sur plusieurs années, donc bien en amont, afin d'aider à définir des seuils. Donc l'étude E+C- était utile et nécessaire, mais du coup n'est plus spécialement utilisée aujourd'hui. On va vraiment se baser sur différents outils. Le premier étant déjà la méthode de calcul de cette réglementation environnementale.
Oui.
On avait une méthode de calcul qui était dite statique. Donc pour ce faire, on comparait ce qu'on appelle des fiches de déclaration environnementale et sanitaire d'un produit, d'un ouvrage A par rapport à un ouvrage B, et on comparait les impacts environnementaux, et notamment le bilan carbone via le réchauffement climatique. À savoir que c'est dans ces fiches, il y a plusieurs autres indicateurs. Il y en a presque 30, donc c'est quand même pas mal. Mais on a décidé, en tout cas quand je dis on, c'est le gouvernement, a décidé de se concentrer sur la partie bilan carbone. La méthode de calcul a évolué assez récemment. Finalement, on est passé d'une méthode de calcul dite statique à une méthode de calcul dite dynamique. Mmh. Il y a une volonté qui non dissimulée et à juste titre du coup de privilégier les matériaux plutôt biosourcés. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez dit, il est très urgent d'agir. Comme il est très urgent d'agir, on va regarder les matériaux qui ont une très très faible empreinte carbone aujourd'hui, voire ceux qui sont même bénéfiques pour la planète. Et du coup, on va avoir tendance à minorer les impacts environnementaux en fin de vie. J'ai oublié de préciser quelque chose, justement, que lorsque je parle de fin de vie, justement, on va passer, l'FDS va regarder ce qu'on appelle toute l'analyse de cycle de vie du bâtiment. Donc, au niveau des réglementations thermiques, on regarde l'exploitation du bâtiment, avec par exemple la menuiserie, on est sur le bon salon pour en parler, on va regarder les déperditions thermiques, etc., etc. Aujourd'hui, on va regarder tout ce qui se passe de l'extraction de la matière première en amont jusqu'à la déconstruction du bâtiment et même au-delà du périmètre, jusqu'au recyclage des différents composants, les éléments qui sont constitutifs du bâtiment.
Alors, première question, c'est concernant justement ces matériaux biosourcés. On se dit intuitivement avantage au bois plutôt que peut-être qu'au métal. Quels sont les impacts pour vous qui représentez l'Union des métalliers ?
Alors, a priori, on pourrait se dire qu'il y a un impact très conséquent, puisque lorsqu'on regarde les données environnementales, le bois, on a un impact qui est un indicateur qui est négatif, donc qui est positif pour la planète, ce qui veut dire qu'on a très fortement réduit les émissions de carbone. Donc, plus l'indicateur est élevé, moins on est bon. Le bois a des indicateurs qui sont négatifs, donc forcément, ils sont très très bons, mais il faut mettre ça en parallèle avec les seuils qui sont définis, qui seront définis dans l'RE 2020. Donc, je rappelle, applicable au 1er janvier 2022 pour la partie bâtiment d'habitation et par contre pour la partie tertiaire au 1er juillet 2022. Ça a son importance. Et donc on a des seuils qui sont définis, qui sont des seuils par kilogramme, enfin équivalent kilogramme CO2 par mètre carré et par an. Donc il faut bien se référer à la taille du bâtiment. Je vais prendre un exemple. Si on a un escalier en bois qui a un impact pour la planète en point de vue CO2, je veux dire n'importe quoi, de moins 10 kg, et un escalier métallique de 1 tonne, si on a un bâtiment qui fait 1000 mètres carrés pour cet escalier, on va diviser cette valeur par 1000 parce que c'est lié à la surface.
D'accord.
Et les moins 10 divisé par 1000 et le 1000 divisé par 1000, on se retrouve avec des facteurs qui sont relativement proche. Donc il ne faut pas paniquer. Effectivement, on va avoir tendance à mettre en avant plutôt les biosourcés et le bois, qui est le matériau le plus connu, mais ce n'est pas le seul. Mais je ne suis pas craintif, puisque à l'échelle du bâtiment, pour la plupart des bâtiments, tout devrait bien se passer. On a quand même quelques craintes au niveau des bâtiments tertiaires, puisque les bâtiments tertiaires sont constitués principalement, notamment au niveau des façades rideaux, des bardages de métal et de verre. Et de ce fait, la superficie de ces composants ramenés à la surface du bâtiment est assez conséquente. Et de ce fait, on a tendance à avoir des écarts qui peuvent se creuser sur ces indicateurs.
Voilà, en tout cas pour cette RE 2020, en tout cas ça va arriver vite, hein, vous l'avez dit, 1er janvier, 1er juillet pour les bâtiments tertiaires, c'est demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mises en chantier d'aujourd'hui prennent déjà en compte ces réglementations?
Tout à fait, il est très pertinent et très bon pour la profession de pouvoir anticiper cette RE 2020. Alors, il est vrai que communément, les personnes qui ne sont pas soumises à une réglementation ont tendance à être conscientes du sujet, mais sans forcément le prendre en compte. Mais c'est vrai que de plus en plus, via notamment le travail des unions, des fédérations, des pouvoirs publics, on a quand même un gros travail de communication qui est fait, et les maîtres d'ouvrage, les architectes, etc. sont déjà très fortement sensibilisés à cette démarche environnementale. Après, reste maintenant, pour demain, en tout cas, atteindre les seuils qui seront définis.
Oui, pour terminer là, justement sur ce bilan carbone, cette RE 2020, on était habitué à avoir justement cette réglementation thermique, hein, c'est-à-dire voilà, avec des codes un petit peu comme les appareils de A à G, avec un code couleur. On aura la même chose pour le carbone?
Non, pas dans la réglementation thermique. On aura des seuils qui seront définis, un niveau carbone 1, un niveau carbone 2, etc., des seuils énergétiques, mais... Je n'ai pas connaissance à ce jour de code couleur comme un peu un Nutri-Score qui puisse exister, défini par les pouvoirs publics.
Bon, ça arrivera peut-être, attention. Hein.
Peut-être, hein, c'est peut-être une très bonne idée.
Et on voit que ça a déjà un impact, effectivement, sur le prix du logement, des reventes, hein, notamment. Oui. Ça peut impacter si on achète ce qu'on appelle voilà, communément une passoire thermique. Forcément, on sait qu'il y aura des travaux derrière pour les mettre aux normes, isolés, sachant qu'il y aura certaines interdictions, même qui, à partir de 2024, 2026, 2028, vont progressivement se mettre en place pour éviter ce genre de location sur le marché.
Tout à fait, exactement.
On reste dans les acronymes, Jonathan, avec la REP.
Oui, alors la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est une réglementation, en tout cas un décret qui va être appliqué à partir du 1er janvier 2022, également comme la RE 2020. Et là, toujours dans le but de sauver un petit peu la planète, puisque c'est le but qui se cache derrière toute cette réglementation. La responsabilité élargie du producteur va permettre, a priori, de lutter contre du coup, tout ce qui est dépôt sauvage, mieux maîtriser la filière de recyclabilité. Pourquoi ? Parce que dans la préservation de l'environnement, il y a bien évidemment le recyclage. Le recyclage est vraiment une part importante. Pour la partie métallique, on est recyclé à environ 90, 95, voire 98% en fonction des éléments.
Jusqu'à 98%.
Et oui, pour certains secteurs. En revanche, pour d'autres composants, d'autres matériaux, y compris des matériaux, des ouvrages mixtes, on a beaucoup plus de mal. Et du coup, on a besoin de mettre en place un éco-organisme qui va s'occuper du coup de gérer toute cette filière de recyclabilité et va s'occuper d'atteindre les seuils qu'on se sera fixés, tant en termes de périmètre, de traçabilité, de quantité, forcément, de matériaux à recycler. À savoir que la responsabilité élargie du producteur n'est pas nouvelle, hein. Tout le monde la connaît sur la connaître finalement. Je vais prendre l'exemple de l'ameublement. Vous achetez par exemple un meuble dans
une
grande surface, voilà, etc. Et on aura souvent sur la facture dont éco-contribution.
Oui.
On aura la même chose avec les D3E. Une ampoule, un composant électrique, une machine à laver, on aura aussi don éco-contribution.
Ou plus récemment, sur tout ce qui est appareil électronique.
Exactement, avec les D3E, ces appareils électroniques. Et du coup, de ce fait, on a déjà cette éco-contribution qui est mise en place sur un certain nombre d'éléments. Mmh. Elle est tout simplement nouvelle dans le monde du bâtiment.
Quelques centimes, en tout cas, pour les biens de consommation courante, j'allais dire, on le voit, c'est quelques centimes, 1, 2, 3 centimes.
Tout
Est-ce
à
que
fait.
Ce sera dans le même ordre d'idée pour...
Alors aujourd'hui, on n'est pas capable de vous répondre puisque les éco-organismes sont en pleine discussion via des comités de secteur et des groupes de travail qui vont définir les fameux barèmes justement pour définir ces fameux centimes ou fameux euros. À savoir qu'un téléphone, effectivement, qui peut coûter, on va dire, entre 300 et 1500 euros pour les plus onéreux, n'aura pas le même impact d'éco-contribution qu'une charpente métallique, admettons, des ordres de métallerie sur des contrats à plusieurs millions. Oui. Donc, ne soyons pas utopistes, on n'aura pas quelques centimes sur tout un chantier. Mais en tout cas, il y a de très très grandes réflexions avec un certain nombre d'acteurs autour de la table aujourd'hui qui sont en cours de décision, on va dire, de calcul de ces fameux barèmes.
Une question, Jonathan Barrault, est-ce qu'on est en France, on essaye de laver plus long que l'an et on s'empare de ces sujets pour le meilleur, hein, je pense, et de toute façon c'est une urgence, on l'a dit, ou est-ce que c'est suivi ou ça se calque vers d'autres initiatives européennes ou mondiales?
Alors, dans tous les cas, on a pas mal de réunions, on va dire, de rassemblements internationaux qui concernent l'environnement, avec des pays qui sont plus ou moins impliqués. Mais c'est vrai que la France est quand même un certain leadership dans cette démarche. Et c'est vrai que la RE 2020 est quand même assez en amont de ce que peuvent faire certains autres pays. L'avantage étant de notre côté qu'on est déjà un pays relativement développé, qu'on peut se permettre d'investir dans ces innovations qui vont permettre de limiter ces émissions. Ouais. Mais effectivement, c'est une démarche mondiale. Il ne faut pas se leurrer. Si seule la France réalisait ses efforts environnementaux, on n'irait pas très très loin. On a besoin du soutien de la France, de la nation, donc de l'Europe et de l'international dans son global.
Bien sûr, on ne peut rien faire tout seul, enfin c'est compliqué, c'est plus compliqué. On termine avec l'outil bilan carbone, de quoi s'agit-il, Jonathan Barrault?
Tout à fait. Donc au niveau de l'Union des métalliers, on a différentes commissions. Dans ces différentes commissions, on a la commission technique et dans cette commission technique, on a un peu plus d'une dizaine de groupes de travail. Et dans l'un de ces groupes de travail, on a réfléchi et on est en train de construire un outil qu'on appelle bilan carbone pour l'instant, mais il faudra qu'on lui trouve un nom un peu plus approprié, qui permet de réaliser un bilan carbone de l'entreprise, comme son nom l'indique, notamment basé sur les comptes de classe 6 des entreprises spécifiquement liées à la métallerie. Donc, on pourra savoir quel est l'impact environnemental, mais après on a décidé de définir quels sont les postes sur ces différentes lignes comptables finalement sur lesquelles on pouvait agir réellement. Et du coup on propose via cet outil différents scénarios qui vont permettre aux entreprises de dire tiens, si je change tel usage, si j'investis dans tel équipement, je vais pouvoir diminuer mon empreinte carbone au sein de l'entreprise, tout simplement, pas forcément au niveau du bâtiment, mais au sein de leur propre entreprise, et avoir un calcul financier qui est derrière. Effectivement, on aura des solutions qui seront soit quantitatives, soit qualitatives, certaines qui seront juste un changement d'usage dans l'entreprise, d'autres qui feront appel à des investissements. Donc on a essayé de corréler ce gain environnemental par rapport à un gain ou une perte aussi économique pour l'entreprise qu'elle se doit d'amortir. Donc le but est vraiment de rentrer un petit peu dans une démarche RSE qui est vraiment une démarche très, entre guillemets, à la mode, mais complètement nécessaire, la responsabilité sociétale des entreprises, qui nous permet de se dire où on en est aujourd'hui, comment je peux faire mieux, comment je peux faire mieux pour mes employés, pour la société et pour le monde au sens général. Et cet outil s'inscrit dans cette démarche d'avoir des entreprises de plus en plus propres et basées toujours sur la base du volontariat, non pas via une réglementation, mais sur tout simplement une démarche collective qui, on l'espère, aura une conscience globale assez impactante.
Et oui. Est-ce que, justement, quand on présente cet outil, quel est le retour quand vous présentez, vous, à l'Union des métalliers, les adhérents?
Alors pour l'instant, il est toujours en cours de développement, donc on le présente dans un comité très restreint. On est en phase d'optimisation, on essaie de le rendre ergonomique aussi, parce que si on veut que l'outil soit utilisé, il se doit d'être simple et ergonomique. Sans cela, bien évidemment, si on a des centaines de lignes à remplir, personne n'ira. Donc pour l'instant, les personnes qui ont la présenté en comité restreint trouvent l'outil d'une pertinence assez marquante. Et on prend pour l'instant tous les commentaires justement pour essayer de l'optimiser. Et comme c'est un outil qui est créé notamment dans le groupe de travail par des entreprises de métallerie, pour des métalleries, il sera a priori très fortement adapté à une grande majorité de nos adhérents.
Eh bien, écoutez, on a hâte que ça sorte en réel.
Nous aussi.
On fera effectivement le bilan de ce bilan, cet outil bilan carbone. En tout cas, on voit que ça bouge sur ce monde, sur ces métiers. Beaucoup d'innovation. Bien sûr, une adaptation à cette réglementation qui est peut-être un peu plus dure que ce qu'on faisait avant, mais qui, on le comprend, c'est même pas un mal nécessaire. C'est aussi s'améliorer ses techniques de production et puis être conscient, évidemment, des enjeux. Un grand merci, Jonathan Barrault. C'était très clair, délégué général adjoint, responsable technique de l'Union des métalliers. Et à très bientôt sur Bâti Radio.
À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.
Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.